la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg chargée de se prononcer sur la demande des parents de voir les crucifixes ôtés des salles de classe des écoles publiques en Nord d'Italie, statua en 2009 que la présence obligatoire de crucifixes dans les écoles publiques violait à la fois l'obligation de neutralité de l'État et les droits des parents et des enfants à la liberté de religion, suscitant une large contre-mobilisation de la part de nombreux États membres, surtout orthodoxes, des associations catholiques, d'avocats et des organisations non gouvernementales protestantes. La décision de cette cour fut cassée en 2011 par la grande chambre de cette même cour au motif que le crucifix était un symbole religieux passif auquel le gouvernement pouvait légitimement donner une visibilité prépondérante. Le cas Lao Tzu semble indiquer que le religieux est devenu un marqueur très visible, quoique contesté, d'identité nationale dans une Europe en apparence laïque. Dans cette intervention, je vise à analyser l'évolution des relations entre religion et identité nationale au fil de l'intégration européenne. Comment les institutions européennes telles que le CEDH et plus important encore l'Union européenne et ses dispositifs juridiques, politiques et administratifs affectent-elles les marqueurs religieux d'identité collective, plus précisément tendent-elles à réduire la visibilité de la religion dans la construction d'identité nationale, suscitaient-elles une réaction de réaffirmation des nationalismes religieux ou bien mènent-elles à ce que des composantes religieuses d'identité se réinscrivent dans des cadres transnationaux ou civilisationnels plus larges. Pour discuter ces interrogations, je m'appuie sur les résultats d'une recherche collaborative que j'ai conduite avec des chercheurs en Allemagne, en Pologne, Grèce et Turquie sur les discours des élites, des débats médiatiques et des opinions du grand public pendant la phase d'accélération de l'intégration européenne de 1990 à 2010. J'aborderai dans une première partie plutôt descriptive la manière dont l'intégration européenne, souvent perçue par les intellectuels comme un projet laïque et cosmopolite, a paradoxalement peut-être donné lieu à une nouvelle visibilité publique du religieux dans des contextes extrêmement divers. Et dans une deuxième partie plutôt analytique, je présente l'argument que la variété d'identité nationale marquée par des codes religieux ne peut s'expliquer qu'en étant plus attentif aux trajectoires historiques de laïcisation des États et aux constellations d'acteurs qu'elles ont produits. Donc, première partie, les débats sur l'intégration européenne ont longtemps ignoré les aspects religieux à l'œuvre dans les transformations contemporaines des identités nationales. Influencés par diverses versions de la théorie de la modernisation, de nombreux auteurs supposaient implicitement ou soulignaient explicitement les conséquences du projet européen en termes de sécularisation. Les défenseurs du cosmopolitisme et des constellations post-nationales comme Ulrich Beck ou Jürgen Habermas gardent bon espoir que les principes en apparence universalistes qui sous-tendent les institutions européennes finiront par reléguer au second plan les identités particularistes, y compris celles de nature nationale ou religieuse. C'est seulement récemment que des chercheurs ont commencé à aborder plus directement l'arrière-plan démocrate chrétien du mouvement européen dans l'après-guerre, la relation complexe des différentes traditions confessionnelles avec le projet européen ou la renaissance des remises en cause nationalistes chrétiennes de la vision libérale de l'Europe. Notre recherche collaborative contribue à cette littérature en distinguant descriptivement trois processus de recomposition des relations religion et identité nationale que j'appelle ici réduction, réaffirmation et réencontrement. Donc, premier processus, il convient de souligner d'emblée que les principes universalistes libéraux comme les droits de l'homme, la démocratie, le pluralisme sont effectivement assez solidement institutionnalisés dans l'Union européenne ainsi que dans d'autres institutions européennes. Des institutions qui se sont toutes trouvées consolidées après l'effondrement du communisme. On ne saurait nier non plus que sur l'ensemble du continent, les institutions européennes ont des effets assez tangibles sur les relations enracinées dans l'histoire entre État et Église, avec une forte promotion de la neutralité de l'État et de l'adaptation pluraliste à la nouvelle diversité religieuse. Par conséquent, on ne sera sans doute guère surpris d'observer que l'intégration européenne contribue à une certaine réduction de la prépondérance du religieux et à un renforcement des composantes laïques, des constructions d'identité collective, au moins chez une partie des acteurs. Et c'est dans tous les quatre pays que nous sommes traités. Ce sont notamment les élites politiques dominantes qui, au-delà des clivages politiques, soutiennent le projet d'intégration européenne malgré la montée des eurosceptiques à l'extrême gauche et à l'extrême droite. En corollaire, les codes civiques laïques apparaissent assez fortement dans la construction que les élites font de l'identité nationale pendant la période analysée. Il serait cependant erroné d'en conclure que l'intégration européenne réduit systématiquement la prégnance des composantes religieuses de l'identité nationale. Bien au contraire, notre recherche suggère que le processus d'intégration européenne s'est accompagné de contestations marquées au sein des élites, comme dans le grand public, sur les composantes religieuses de l'identité collective. D'une part, des signes indiquent qu'une réaction de réaffirmation du nationalisme religieux, en particulier en Pologne et en Grèce. L'accession de la Pologne à l'Union européenne en 2004 a débouché sur une certaine insatisfaction publique vis-à-vis du cadre qu'offrait la nouvelle Europe, cadre élitiste du discours sur l'européanisation. Des acteurs politiques de droite mirent ainsi l'accent en particulier sur les intérêts nationaux, se référant à un nationalisme basé sur les idées culturelles et religieuses. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que l'Église catholique a regagné d'influence dans la sphère publique. Au contraire, en soutenant des positions parfois d'un conservatisme radical dans les débats sur l'éducation et l'avortement, par exemple, l'Église a effectivement perdu la confiance de la population, malgré un renforcement des identifications nationales. Les composantes religieuses de l'identité nationale ne sont que partiellement liées au pouvoir des Églises, semble-t-il. En Grèce, l'Église orthodoxe avait même des liens plus forts avec les réactions nationalistes à l'encontre de ceux qui étaient perçus comme une menace d'influence extérieure de Bruxelles. La réaction de réaffirmation du nationalisme religieux n'est cependant pas la seule façon dont l'intégration européenne a entraîné une nouvelle visibilité publique du religieux. Ce que suggèrent aussi nos études, c'est que le religieux peut être une importante ressource discursive d'un réencadrement des identités nationales dans les cadres transnationaux et civilisationnels. Le signe le plus évident de ce réencadrement religieux de l'identité collective est l'émergence du cadre discursif dit du retour à l'Europe dans les années qui suivent l'effondrement du communisme en Pologne. Ce cadre discursif associait les codes catholiques de l'identité polonaise et les idées universalistes de réévangélisation de l'Europe après le règne de l'athéisme socialiste défendu par le pape Jean-Paul II. En Turquie, les codes religieux de l'identité sont également passés au premier plan des débats publics. Malgré le consensus des élites sur l'intégration européenne mentionné plus haut, la signification précise de cette intégration reste assez contestée. Si certains la considèrent comme un processus d'occidentalisation sans ambiguïté, dans le sens du projet de formation de l'État-nation kémaliste, d'autres soulignent sa compatibilité avec une version assez différente de la modernité. En fait, la vision kémaliste est remise en question par des groupes d'identité ethnique et par l'islam politique, et ce depuis les années 80. Après les grands espoirs initiaux d'accession à l'Union européenne, la déception face aux négociations au point mort au cours des années 2000 a permis l'essor d'une vision néo-ottomane. La Turquie y était vue comme un pont entre les civilisations et les répertoires discursifs de tolérance y étaient réactivés, ce qui, tout en étant compatible avec le discours de l'Union européenne sur la diversité, est en fait susceptible d'aller de pair avec de nouvelles asymétries entre la majorité turque, musulmane, sunnite et diverses minorités. Au bout de compte, l'intégration européenne a entraîné des réconfigurations plutôt complexes du religieux et des identités nationales. L'intégration ayant des implications tangibles pour les acteurs nationaux, elle leur fournit de nouvelles ressources discursives et modifie leur réseau d'alliances ainsi que leur position de pouvoir. On ne devrait pas être surpris de constater qu'ils fassent appel à d'anciens répertoires discursifs, notamment religieux, qui avaient en apparence disparu du débat public, mais restent assez vivants pour être mobilisés dans la société civile et le monde politique. En d'autres termes, l'intégration européenne ouvre le champ discursif de la nation à la renégociation des codes identitaires entre les acteurs concernés. D'un côté, les perdants du processus multiforme d'intégration européenne auront très vraisemblablement recours à diverses ressources disponibles afin de contrer ceux qu'ils perçoivent comme menaçant leurs intérêts. De l'autre, les gagnants de l'intégration européenne tenteront eux aussi de légitimer leur nouvelle position en formulant de nouvelles réalités institutionnelles à l'aide des répertoires discursifs disponibles. Les traditions nationales comme religieuses figurant en bonne place parmi ces ressources discursives, on ne devrait pas être surpris si l'intégration européenne donne lieu, parallèlement au cosmopolitisme laïque, à une nouvelle visibilité du religieux dans l'espace public. Mais comment analyser les différentes reconfigurations du champ discursif de la nation dans les différents pays ? Dans la littérature sur nationalisme et religion, on trouve deux types d'approches, approches macro-sociologiques et micro-sociologiques. Les explications macro-sociologiques apparaissent sous deux déclinations. La première fait appel à l'analyse civilisationnelle et au concept des modernités multiples. La seconde version des explications macro-sociologiques est liée à l'œuvre de Stein Rocca, David Martin et d'autres chercheurs en sociologie historique comparative. Ce fut Philippe Barker qui, dans son analyse comparative exhaustive, soutient avec vigueur que le nationalisme religieux en Europe supposait la conjonction de frontières religieuses et de menaces extérieures. Le problème de ces approches est que le choix des répertoires discursifs multiformes mobilisés afin de tracer les frontières dépendait souvent des circonstances politiques et des constellations spécifiques d'acteurs. Il semble nécessaire alors, pour comprendre les différentes formes de nationalisme religieux, d'aborder à une sociologie historique qui prenne les acteurs plus au sérieux et soit sensible aux évolutions contingentes affectant les constellations d'acteurs. C'est exactement la direction du deuxième approche micro-sociologique. Sceptique vis-à-vis des thèses soulignant les profondes racines culturelles des identités nationales, il soutient que les frontières doivent être expliquées, les frontières symboliques, disons, doivent être expliquées comme un consensus négocié entre différents acteurs ayant intérêt à préserver ou à améliorer leur statut social. Cependant, si ces théories récentes ont indéniablement des mérites, il faut, pour théoriser les composantes religieuses des identités nationales, être plus attentif à une multiplicité des acteurs dans les élites et des communautés religieuses. Cela suppose en outre de ne pas prendre les acteurs, leurs préférences et leurs intérêts comme donnés, mais comme constitués historiquement. C'est pourquoi on propose une analyse qui récupère les dynamiques des niveaux méso-sociologiques qui influencent les préférences et les pouvoirs d'acteurs engagés dans des négociations sur les religieux et les identités nationales, en nous concentrant sur les arrangements entre État et Église en leur qualité de structure d'autorité distincte. Étudier ces arrangements suppose de revenir une fois de plus au débat sur la sécularisation, ou plus précisément sur la différenciation entre politique et religieux. Contrairement à la vision téléologique qui prévalait auparavant, celle des théories de la sécularisation, la recherche récente tente de plus en plus d'analyser les divers arrangements entre État et Église apparus au cours de la formation des États modernes d'une façon attentive à la contingence. Nous soulignons ici trois types de raisonnements. Premièrement, les sociologues et chercheurs en sciences politiques Tocqueville, Jelinek, Weber et d'autres soulignent que ce type d'arrangement varie en fonction des motivations sous-jacentes au processus de différenciation initiaux. Deuxièmement, plusieurs historiens soulignent que différents arrangements entre État et Église ont débouché sur des trajectoires variables en termes d'appui des masses accordées respectivement aux élites politiques et religieuses. Ainsi, selon l'argumentation de Hook-McLeod, plus les églises étaient liées étroitement à l'appareil de l'État et donc perçues comme faisant partie des élites dirigeantes, plus vite elles perdaient l'appui de la population, en particulier au sein des classes laborieuses de plus en plus nombreuses. Troisièmement, certains chercheurs en sociologie historique et comparée soutiennent que le scénario idéologique ou structurel différent au moment critique de la transition d'empires religieux vers des États laïcs souverains ont débouché sur différents schémas des modèles des relations État-religion. Ce nouveau courant de recherche mérite à nos yeux d'être davantage intégré à la littérature sur le nationalisme et l'européanisation. En réalité, les trajectoires de sécularisation des institutions ou de l'État dans un pays donné contribuent à expliquer les constellations variables d'acteurs et des pouvoirs dans lesquels s'opèrent les négociations sur l'identité nationale. Le niveau d'intégration des élites religieuses au projet de formation de l'État ainsi que leur degré d'autonomie organisationnelle expliquent nombre de différences cruciales observées dans les pays au centre de notre étude. Donc, pour conclure, théoriser les relations entre religion et identité nationale semble requérir un cadre théorique qui non seulement combine attention portée au répertoire culturel et aux microdynamiques de frontières symboliques, mais qui inclut également un traitement détaillé des processus de sécularisation de l'État et des diverses constellations d'acteurs que ceux-ci ont produites dans l'histoire. En d'autres termes, la religion n'est pas un simple marqueur diacritique de plus dans la construction d'identités collectives, à l'instar de la différence linguistique ou phénotypique. Comme l'a souligné si justement Max Weber, les structures d'autorité religieuse et leurs relations conflictuelles avec les instances d'autorité de l'État moderne produisent plutôt des constellations complexes d'acteurs politiques et religieux, de mouvements politiques et religieux, qui à ce jour continuent d'influencer les négociations sur l'identité collective. Je vous remercie.